Banque au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en, nous sommes vendredi et dans 30 minutes, vous connaissez le principe de la libre antenne, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix, tous les sujets nous intéressent. Ce matin, vous êtes encore nombreux à réagir à l'accord de paix signé il y a tout juste une semaine entre la RDC et le Rwanda. On nous appelle également pour commenter cette décision de l'opposant tchadien Succès Massra de suspendre sa grève de la faim. Des réactions également sur la répression des manifestations au Togo, sur le 50e anniversaire de l'indépendance des Comores ou encore sur le projet de nouvelle constitution en Guinée. Les sujets ne manquent pas, vous êtes les bienvenus, on vous attend au standard 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les jours sur les réseaux sociaux. Tiens, en parlant de réseaux sociaux, n'oubliez pas, dans un petit quart d'heure, Jessica Taïeb nous rejoindra pour sa chronique Un œil sur les réseaux. Comme tous les vendredis, Jessica nous parlera d'un sujet qui fait débat sur les réseaux et après l'avoir écouté, vous aurez certainement envie, vous aussi, de prendre la parole et de vous exprimer dans la libre antenne, surtout si vous êtes en Côte d'Ivoire. Je n'en dis pas plus. On commence l'émission comme tous les matins avec vos questions à la rédaction. Mamadi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous écouter en Guinée. Vous avez des questions sur la distribution de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza.
Oui, tout à fait Juan. Comme vous le savez, l'ONU et plusieurs ONG appellent à mettre fin à toute collaboration avec le système d'aide humanitaire financé par les Américains et les Israéliens. Moi, j'ai deux questions. La première, quel est le problème avec cette fondation?
Oui, la fondation en question, c'est la Fondation humanitaire de Gaza. C'est elle qui a été désignée par Israël pour coordonner l'aide dans le territoire palestinien. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international de RFI. Mamadi parlait de plusieurs ONG. Elles sont quasiment 200 aujourd'hui à réclamer la fin des distributions alimentaires gérées donc par cette organisation. Pourquoi, expliquez-nous Nicolas, pourquoi cette fondation suscite autant la controverse?
Alors, que sait-on de cette organisation qui est nouvelle, hein, puisqu'elle a été mise en place fin mai par Israël et les États-Unis après une période de 2 mois d'interruption de l'aide internationale dans la bande de Gaza, interruption par Israël. Cette fondation a reçu 30 millions de dollars du gouvernement américain. On n'a pas trop d'informations supplémentaires sur...
Oui, c'est assez opaque.
C'est opaque et il y a aussi un flou sur le nombre de repas distribués avec des chiffres variables. On entend plusieurs millions de la part de la fondation elle-même et même plusieurs dizaines de millions lorsque ce sont des officiels israéliens qui parlent. On sait qu'il y a 4 points de distribution dans la bande de Gaza. On sait aussi que cette fondation est dirigée par Johnny Moore, qui est un pasteur évangélique américain, qui est à la fois proche du président américain Trump et proche de la droite israélienne. On sait également que cette fondation emploie des vétérans, d'anciens soldats de l'armée américaine sur le terrain dans la bande de Gaza. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que les distributions de repas par cette fondation sont depuis des semaines le théâtre de violences avec des centaines de civils qui ont été tués alors qu'ils faisaient la queue pour recevoir de l'aide alimentaire. La défense civile palestinienne a comptabilisé à ce jour plus de 600 morts et 4000 blessés.
Et comme toujours, le bilan et les sources sont contestés.
Oui, alors vous avez raison de mentionner ça, Juan. Il faut qu'on s'arrête, comme toujours, sur ce point-là. Israël et aussi la Fondation rejettent ce chiffre et ses critiques, mettant en cause la source, affirmant que les chiffres viennent de Gaza et donc du Hamas qui contrôle l'enclave palestinienne. Or, l'ONU et les ONG qui ont des relais sur place confirment que les distributions de la Fondation provoquent la mort de nombreux civils. RFI a recueilli des témoignages. L'Organisation mondiale de la santé a endossé un bilan supérieur à 500 morts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'un système militarisé qui tue des gens, ce sont ses mots. Et puis il y a cette enquête du journal israélien Haaretz, qui a recueilli des témoignages de soldats israéliens qui confirment les scènes, les tirs lors de ces distributions qui deviennent chaotiques et donc meurtrières. Des soldats israéliens eux-mêmes indigné des consignes de tir sur des civils qui ne représentaient aucune menace à ce moment-là.
Ouais, l'ONU et donc ces centaines d'ONG dénoncent les actions de cette fondation.
Oui, alors critique en raison de ce bilan, hein, évidemment, dont on vient de parler. Critique d'un système privatisé, encore une fois, avec cette structure opaque et militarisée, en rupture avec les règles humanitaires qu'on peut rappeler, hein, humanité, neutralité, impartialité, indépendance. L'ONU et les ONG refusent de travailler avec la fondation. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié cette semaine de crime de guerre l'utilisation de la nourriture comme arme à Gaza. Et puis cette semaine, 170 organisations non gouvernementales qui opèrent à Gaza ont appelé ensemble à mettre fin aux actions sur le terrain de cette fondation.
Mamadi, votre deuxième question,
oui.
On vous écoute.
Bien, à part cette fondation One, est-ce qu'il n'y a pas d'autres structures qui viennent en aide aux Gazaouis?
Alors, concernant l'aide alimentaire, Nicolas Falaise, je parle sous votre contrôle. À l'heure actuelle, c'est la seule organisation qui distribue l'aide alimentaire à Gaza.
Alors, il y a quand même des canaux qui fonctionnent via l'ONU ses agences et aussi les ONG dont on vient de parler, mais elles doivent composer avec un accès extrêmement limité par Israël. Israël qui limite les canaux traditionnels de la part d'acteurs connus humanitaires sur le terrain et qui a laissé toute la place donc à cette fondation. Limite en nourriture, mais c'est important de le dire aussi en carburant, et ça pèse sur l'ensemble opérations humanitaires. C'est ce que nous disaient les représentants d'une ONG que j'ai contacté hier pour préparer la réponse à notre auditeur. Cette ONG qui me disait l'aide rentre, médicaments, équipement médical, fuel pour ce qui nous concerne, très limité, ça ne couvre pas les besoins médicaux de la population qui augmentent en raison de la malnutrition et des bombardements.
Merci Nicolas Falaise, journaliste au service international de RFI. Mamadi, a-t-on répondu à vos questions?
Très bien répondu, Juan.
Merci à vous de votre fidélité. Continuez à nous écouter à Sigiri. C'est en Guinée, 8h17 en temps universel. David Bachier, journaliste au service Afrique de RFI, nous rejoint. Soyez le bienvenu, installez-vous. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour.
On vous a demandé de venir. On a des questions sur la situation sécuritaire au Mali que vous suivez de près. Kodjo nous a contacté. Il est à Lomé et il nous écoute, je crois, sur YouTube. Bonjour Kodjo.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais féliciter mon fils Gaël. Je profite pour féliciter mon fils Gaël qui a le BPC et qui écoute RFI sur YouTube dans sa chambre à l'heure actuelle.
Eh bien, on le salue et bravo à lui et bravo à tous les étudiants et les élèves qui ont réussi leurs examens. Kodjo, vos questions?
Oui, concernant le Mali, plusieurs attaques djihadistes revendiquées par les UNIM ont eu lieu dans le sud du pays. Bon, je voulais savoir pourquoi ces attaques surviennent près des frontières sénégalaises et mauritariennes. Et que sait-on du bilan humain?
Ouais, cette attaque, pour être précis, cette attaque coordonnée revendiquée par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. David Bachet, le bilan humain, que sait-on?
Alors, pour ce qui concerne l'armée malienne, elle affirme avoir neutralisé plus de 80 terroristes au total. C'est un chiffre qui semble surévalué pour les observateurs et les analystes sécuritaires avec qui j'ai pu échanger, même si aucun d'entre eux ne remet en cause l'efficacité de la riposte de l'armée, pour ce qui concerne en tout cas l'attaque de Niono et, dans une moindre mesure, celle de Kaï. L'armée a diffusé des images d'ailleurs de dizaines de corps et aussi d'armes et de véhicules qui ont été récupérés. Aucun chiffre en revanche sur les victimes civiles ni sur les soldats tombés au combat. Et je n'ai pas été en mesure de recouper suffisamment tous les chiffres que j'ai pu recevoir. Côté djihadiste, le JNIM revendique plusieurs dizaines de soldats tués et un prisonnier sur l'ensemble des attaques. Aucun chiffre, là encore, pour ce qui concerne les djihadistes tués. Je rappelle que 7 localités ont été ciblées mardi matin, plus même, puisqu'en plus des positions militaires, des sites industriels ont également été attaqués à Bafoulabé, dans la région de Kaï, une cimenterie, une usine de fabrication de carreaux. J'ajoute que 3 citoyens indiens et un chinois ont également été pris en otage à l'occasion de ces attaques, mardi, par le JNIM à Kaï, près de Kaï. C'est une information de notre confrère Wassim Nasr de France 24. Et le même jour, mardi, le JNIM revendique enfin une autre attaque, cette fois dans le nord, près de Tombouctou, à Beir, au cours de laquelle une dizaine de combattants russes de l'Afrika Korps auraient été tués.
Ouais, on parle donc, David Bachet, de dizaines de morts de part et d'autre.
Voilà, mais aucun bilan global précis et fiable n'a pu être vérifié. Je l'avais déjà expliqué ici, hein. D'abord, le JNIM est dans la propagande classique des groupes djihadistes, et l'armée malienne, elle-même, de son côté, cache ses morts. Pour ne pas nuire au moral des troupes, et pour ne pas faire le jeu des djihadistes, selon certains, pour cacher la réalité de la situation sécuritaire du pays, et pour entretenir l'illusion d'une reconquête, selon les autres. En tout cas, la stratégie est assumée, appliquée.
Ouais. Kodjo nous demandait pourquoi ces attaques surviennent dans le sud-ouest du Mali, près des frontières sénégalaises et mauritaniennes.
Alors, d'abord, c'est en fait la suite logique de la stratégie du JNIM et d'Al-Qaïda, qui prétendent instaurer un califat au Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les attaques ont commencé il y a une quinzaine d'années, dans le nord du Mali, puis elles se sont étendues au centre du pays, mais le JNIM ne compte évidemment pas s'arrêter là. Le Burkina et le Niger, vous le savez, sont concernés depuis longtemps, et ça fait aussi plusieurs années que les attaques se propagent dans les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et donc, pour revenir au Mali, elle se propage aussi dans le sud du pays, région de Sikasso, de Koutiala, de Ségou et donc de Kaye. En fait, il n'y a aucune surprise. Tout cela est annoncé en quelque sorte par les djihadistes qui menacent assez ouvertement tous les pays de la région. Bien sûr, chaque nouvelle attaque, chaque signe de cette progression sonne comme une nouvelle alarme. La région de Kaye avait déjà connu de nombreuses attaques, mais pas la ville de Kaye, et il n'y avait jamais eu autant d'actions simultanées coordonnées tout le long de la frontière, enfin des frontières sénégalaises et mauritaniennes. En avril dernier, une étude du Timbuktu Institute, je me fais moi-même des pièges, relevait déjà qu'entre 2021 et 2024, le nombre des attaques du JNIM dans la région de Kaye avait été multiplié par 7. Oui. La série de mardi dernier vient donc tristement confirmer cette tendance. Ensuite, le rapport du Timbuktu Institute apporte un autre élément de réponse à votre question, Kodjo, c'est celui de l'approvisionnement de Bamako.
Oui, le Timbuktu Institute, David, pour bien préciser les choses, c'est un centre de recherche pour la paix qui s'occupe donc beaucoup de guerre.
Voilà. Et la théorie de son directeur à Dakar, Bakary Samb, c'est que les djihadistes veulent couper un axe d'approvisionnement qui est capital pour le pays. C'est la route qui relie Dakar, le port de Dakar, à Bamako. Une route empruntée chaque jour par des centaines de camions et qui passe donc par Kaye, qui traverse la région de Kaye. Cette théorie, elle semble d'ailleurs confirmée par l'annonce du JNIM, mercredi soir, d'imposer un blocus aux villes de Kaye et de Nioro du Sahel. Le JNIM prétend punir les habitants qui sont accusés de collaboration avec l'armée, et les djihadistes annoncent donc vouloir couper toutes les routes qui relient ces villes au Sénégal, à la Mauritanie et à la capitale Bamako. Alors on verra bien sûr dans quelle mesure ils réussiront à mettre en œuvre cette punition collective, on peut le dire, parce qu'en face, l'armée malienne va évidemment se mobiliser pour tenter de les en empêcher. En tout état de cause, selon le Timbuktu Institute, il s'agit d'une stratégie de long terme pour affaiblir, isoler et même encercler la capitale malienne. Le Timbuktu Institute estime également que le JNIM se prépare à pénétrer le Sénégal et la Mauritanie, hein, ça c'est pour vous répondre encore qu'audio, avec à ce stade aucune base à proprement parler dans ces deux pays, mais une implication croissante des djihadistes dans certains circuits économiques, notamment le trafic de bétail et le trafic de bois à partir du Mali.
Voilà Kodjo pour les explications de David Baché. A-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, 5 sur 5. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique.
Merci à vous de votre fidélité, de vos encouragements. À très vite, Kodjo. David Baché, à bientôt.
Merci beaucoup.
Journaliste au service Afrique de RFI. Kodjo. Tiens, on reste dans la capitale togolaise, décidément. On en a des auditeurs de Lomé. Bonjour Latif.
Bonjour Juan.
Merci de nous écouter également sur YouTube, je crois.
Bien sûr.
Bon, c'est parfait. Merci à vous. Vous avez des questions après la condamnation d'un journaliste sportif français en début de semaine en Algérie?
Tout à fait. J'ai lu sur le site de RFI que le journaliste sportif français Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme. Que lui reprochent les autorités algériennes?
Oui, on va tout vous expliquer avec Emmanuel Alcaraz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, agrégé d'histoire, chercheur associé à Mésopolis, Sciences Po, Aix. Christophe Glaise a été arrêté en mai 2024. Il effectuait un reportage pour le magazine SoFoot, un reportage sur un des plus gros clubs algériens, la JSK, la Jeunesse Sportive de Kabylie. Que lui reprochent donc les autorités algériennes?
Alors, les autorités algériennes reprochent à Christophe Glaise d'avoir exercé une activité journalistique sans accréditation officielle, alors qu'il était entré en Algérie avec un visa touristique. Alors, son reportage portait sur la JSK, mais lors d'un précédent séjour en 2015 et 2017, il avait interrogé un des dirigeants de ce club, qui est membre d'un parti politique, d'une organisation non reconnue en Algérie qui s'appelle le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mmh. Et ce mouvement est classé comme organisation terroriste en Algérie depuis 2021. En 2024, Christophe Glaise retourne en Kabylie pour poursuivre son enquête. Il reprend contact avec ce même interlocuteur. Il est arrêté, placé sous contrôle judiciaire et il vient d'être condamné à 7 ans de prison, une peine largement disproportionnée au regard des faits. Et c'est, on voit que c'est une décision de justice à forte portée politique.
Oui, d'ailleurs, le fondateur du groupe Sopress, hein, donc le patron du magazine SoFoot, a clairement dit qu'il était là-bas uniquement pour parler football. Il n'a jamais été question d'indépendance de la Kabylie, jamais de question de faire un reportage politique.
Tout à fait. Et non, mais cette arrestation, elle témoigne aussi d'une détérioration profonde des relations entre Alger et Paris, parce qu'en fait, on n'avait pas communiqué sur cette affaire depuis un an, hein, pour pas que l'affaire Saint-Sall impacte sur Christophe Glaise. Enfin, c'était le choix de Reporters sans frontières. Mais en fait, depuis l'été 2024, les tensions bilatérales entre la France et l'Algérie se sont multipliées avec la reconnaissance par la France, par Emmanuel Macron, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, la crispation autour des OQTF et aussi donc la condamnation de l'écrivain Boulem Sansal à 5 ans de prison pour avoir affirmé que l'Ouest algérien relevait historiquement du Maroc.
Oui. On voit bien que cette condamnation, elle intervient dans ce contexte de crise diplomatique que vous venez de citer entre l'Algérie et Paris. En tout cas, Reporters sans frontières demande la libération immédiate de ce journaliste Christophe Glaise. Merci d'avoir été quelques instants avec nous ce matin, Emmanuel Alcaraz, historien agrégé d'histoire. Je vois entrer dans ce studio Jessica Taïeb. C'est vrai qu'il est 8h27 en temps universel. Bonjour Jessica.
Bonjour Juan.
Vous avez passé la semaine à scruter Instagram, TikTok, Facebook et vous allez nous parler d'un sujet qui fait polémique sur les réseaux depuis 8 jours, depuis l'élection de Fatima Koné au concours de Miss Côte d'Ivoire 2025.
Oui, cheveux courts, naturels, sans artifice, la nouvelle reine de beauté ivoirienne ne fait pas l'unanimité. Hein. Selon ses détracteurs, elle ne correspondrait pas aux standards de beauté d'une Miss. Du coup, des milliers de commentaires postés sur X et sur Facebook, nombreux sont négatifs et certains sont même insultants. Sur TikTok, des internautes se filment pour donner leur avis et leurs vidéos cumulent des centaines de milliers de vues. Alors oui, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une énième polémique comme on en voit malheureusement de plus en plus souvent après les concours de Miss. Mais ce qui est inédit ici, c'est sa virulence et sa durée.
Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que l'élection de Miss Côte d'Ivoire cette année, elle était particulièrement attendue. Il y avait des nouveaux critères, je crois.
Pour la première fois, les critères de concours ont changé. C'est exactement ça. Les perruques, les rajouts de cheveux et l'usage de crèmes éclaircissantes pour la peau ont été interdits pour mieux coller à la culture ivoirienne et africaine, selon les organisateurs.
Et Fatimata Koné a visiblement rempli tous ces nouveaux critères, à tel point que les téléspectateurs l'ont placé en tête de leur vote.
En contradiction totale, du coup, avec les nombreuses critiques que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, je vous en partage quelques-unes. Avec ce visage, cette Miss est à peine capable de participer à des concours de beauté de quartier. Je suis très étonnée de ce choix. Ou encore celui-ci, ce n'est pas parce qu'on a le teint noir et naturel qu'on est forcément belle. Cette année, toutes les Miss étaient sur les mêmes critères et elle n'était pas la plus jolie.
Bon, la beauté, c'est subjectif. En tout cas, à peine couronnée, la nouvelle Miss Côte d'Ivoire qui représentait la région du Handball, c'est dans le centre-nord du pays. Eh bien, la nouvelle Miss s'est retrouvée, bien malgré elle, au centre d'une polémique électoraliste.
Les internautes l'accusent d'avoir été favorisée par le régime en place, en cause son origine commune avec certains membres du pouvoir. Johnny Pacheco, un influenceur ivoirien suivi par plus de 500 000 personnes sur Facebook, l'a même surnommée Miss RHDP, en référence au rassemblement politique du président ivoirien.
Bon, je précise que rien de tout ça n'a été prouvé. En revanche, cette vague de haine a déclenché un véritable élan de solidarité envers Fatimata Koné.
Avec ce commentaire, par exemple, beaucoup ont encore une image figée de ce que doit être une belle femme, teint clair, très européen, cheveux lisses. Le concours 2025 a misé sur un retour vers l'afro-beauté et ça dérange.
Et puis, il y a aussi cette réflexion, une dernière qui est intéressante, que vous avez relevée, Jessica.
Oui, chaque jour sur les réseaux sociaux, on est inondé de discours sur les perruques et le blanchiment de la peau. Et le jour où une femme noire aux traits africains affirmés monte sur scène et gagne, elle finit par être huée.
Voilà, bon, on espère que le mandat de Miss Côte d'Ivoire, de Fatima Takoné, sera plus serein que son élection. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez forcément entendu parler de cette polémique. Profitez-en, si vous le souhaitez, tout à l'heure dans la Libre Antenne. On revient dans tout juste 10 minutes. Merci, Jessica.
Merci à vous.